Allez, nous poursuivons le programme sur le salon Tatou Juste, ici l'espace radio, donc en direct sur Radio Ondenne 90.9 FM et Radio Dio 89.5. Des tables rondes radiophoniques, des ateliers, des exposants sur le salon et aussi des conférences. Tatou Juste adopte désormais le slogan « Le rendez-vous de la transition écologique ». Mais pour qu'il y ait transition, il faudrait encore avoir les connaissances de base pour entrer dans ce mouvement. Et justement, Roland Albignac, écologue, diplômé en agronomie, ancien directeur en éco-éthologie à l'Office de la recherche scientifique et technique d'outre-mer, ancien professeur d'université en écologie et à l'UNESCO, a publié aux éditions Terre Vivante « La Terre et nous, regard et perspective d'un écologue ». Et bien justement, avant sa conférence de 14h, il est avec nous en direct sur les ondes. Roland Albignac, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Alors, effectivement, « La Terre et nous », qu'est-ce que c'est ce regard et ces perspectives d'un écologue?
Ce livre, c'est tout simplement une explication la plus précise possible, mais la plus accessible à des non-spécialistes. C'est un livre qui s'adresse au grand public. Et il a été relu par 3 littéraires pour être sûr que je ne racontais pas de choses imperméables au grand public. Donc, c'est le but essentiel. C'est à partir d'une connaissance minimum de base en écologie et connaissance également de tous les problèmes qui se sont passés, en même temps de tous les espoirs qui se sont développés au cours de différentes conférences, Stockholm, Rio, etc., et bien de donner ces bases pour, dans le cadre de perspectives, justement développer des choses non pas négatives et des avis non pas négatifs, mais de positiver l'écologie, parce que l'écologie punitive, il faut absolument stopper ce langage qui bloque énormément de gens. Je l'ai fait tout à l'heure au moment du repas. C'était déjà j'ai levé 3 ambiguïtés sur justement la nécessité de ne pas être punitif.
Alors, on a compris, et puis vous présentez ce livre, La Terre et nous, c'est une expérience de 50 ans dans ce milieu-là, avec une expérience de terrain que vous avez. Si l'on doit expliquer, non pas tous les concepts écologiques, mais à partir de quand a-t-on commencé à prendre cette question d'écologie dans différentes sphères et dans le monde?
Alors, en gros, on a travaillé avec le milieu naturel sans contrainte, sans se poser de questions, jusqu'à la milieu du 19e siècle. La prise de conscience a commencé vers vers le milieu du 19e. Et je cite l'exemple toujours du parc de Yellowstone, qui a été créé en 1871, donc à une période où on commençait à prendre conscience aux États-Unis de l'intérêt des paysages et des structures naturelles et de leur intérêt aussi pour le développement du tourisme, pour aller voir ces sites absolument sublimes et donc de faire les premiers parcs nationaux. L'idée vient de ce départ. À partir de là, il y a eu plein d'autres parcs créés, fin 19e et surtout début du 20e, dans beaucoup de parties du monde, y compris en France ou dans un pays que je connais particulièrement bien qui est Madagascar, où il y a eu à l'époque coloniale, alors que la France n'était pas du tout préparée à ça, 7 parcs et réserves intégrales. Non, pas 7, 12 avec les parcs nationaux. 12 D'accord. Parcs et réserves dans les années 30. Vous imaginez, il y avait une avance énorme, parce que là, il y a une prise de conscience de la beauté, de l'intérêt de cette biodiversité.
Alors, on parle de beauté, on parle également de repérer des espèces, des végétaux, etc. L'écologie, aujourd'hui, dans ses évolutions, vous avez parlé de Yellowstone, ses premiers parcs et ses réserves naturelles. Cette évolution, au fil des décennies, s'est passée comment? Et aujourd'hui, on en parle au sortir de la COP26. On parle beaucoup d'écologie à un moment donné, dans les milieux politiques, dirigeants. Comment ça s'est évolué? Comment ça a évolué? Comment ça s'est transformé? Et la prise de conscience, comment se fait-elle?
Bien sûr. Alors, ça a permis de mettre en place des institutions de recherche, et notamment l'écologie scientifique de l'époque. Ça a mobilisé aussi des ONG, des associations, qui ont commencé à prendre conscience de réellement les dangers que ça présentait pour l'humanité et pour nous, dans les pays, en tout cas, développés. Et donc, avant la guerre, déjà la dernière, hein, dans les années 30, il y a déjà eu ces prises de conscience. Et puis, quand je vois, j'ai revu récemment Germinal, et qu'on allait chercher du charbon, même que des gamins allaient chercher le charbon à 600 mètres de profondeur, on a pollué au début, fin du 19e et 20e, dans des conditions absolument lamentables, et les gens ont déjà réagi. Alors après, ça s'est mûri, ça a avancé énormément par rapport au Club de Rome. Je pense que vous avez tous entendu parler du Club de Rome, de Brundtland, du rapport Brundtland, etc., de la croissance zéro. J'étais à l'époque tout à fait en phase avec la croissance zéro, qui était déjà les prémices dans les années 70, et repris par René Dumont, qui est un peu mon maître à penser, qui s'est mobilisé, hein, vous vous rappelez peut-être, il s'était présenté au présidentiel, et comme tous les pionniers, on n'est jamais, on prédit des choses, mais on n'arrive pas à convaincre chez soi. Il faut que le temps passe, etc. Donc il y a eu la conférence de Stockholm, qui est capitale, la première conférence mondiale sur la protection de la nature et la valorisation de la nature. Il ne faut pas voir la nature comme quelque chose de contemplatif. Elle a une valeur patrimoniale et économique. Si nous n'avions pas les plantes pour nous soigner, pour s'alimenter, ça serait catastrophique. Donc là, la prise de décision a été importante. Mais maintenant, ce que je reproche avec beaucoup de gens d'associations que j'ai vues aujourd'hui, eh bien, j'ai la confirmation que ça manque d'action. Et je suis là, horrifié par le manque d'action.
Alors justement, à une époque, on parlait de vision à long terme. Aujourd'hui, on parle d'urgence écologique. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre constat à vous et par rapport à ce que vous dites à l'instant?
L'urgence, elle est déjà inscrite depuis les années 70. Hein, et on a appris. Et ce manque d'action nous paralyse. Et j'ai peur, enfin, ma crainte, et c'est pour ça que j'ai été impliqué dans ce livre, puisque j'étais impliqué dans le Grenelle de l'environnement, dans plein de choses, au titre, par exemple, de la Fondation Hulot, mais pas que. Et si vous voulez, l'idée maintenant, c'est de dire, allons en action. Moi, j'ai travaillé toujours sur le terrain. J'ai même eu l'honneur de travailler pour l'UNESCO dans le cadre d'un projet pilote dans les années 86 pour soumettre à Rio un projet d'action, pas un projet basé sur une expérience et sur une analyse des résultats. Hein, et ça, c'est important. Et je suis déçu un peu, mais optimiste, parce que je ne suis pas un destructeur du système. Il est temps, on peut encore réagir avec cette perspective, et je donne là des éléments le plus objectifs possible pour que chacun se fasse sa propre idée et se définisse les niveaux de mobilisation qu'il pense utile.
Alors justement, et par rapport à ce que vous disiez et l'expérience que vous avez eue à midi, cette discussion avec des remarques faites autour de cette écologie un peu punitive, et finalement on se détache un peu de ces questions-là. J'ai parlé de la COP26, mais il y avait aussi les accords de Paris suite à la COP21, et on constate effectivement, on fait un demi-pas en avant et 10 pas en arrière. Comment on fait finalement pour mobiliser chacun et garder cette mobilisation?
Voilà, ça me fait penser au propos de Greta, hein, qui a dit carrément blablabla, blablabla. C'est de le drame. J'ai plusieurs fois assisté à des après-Rio, hein, de différentes étapes, et j'ai retrouvé dans les conclusions de ces réunions sur la biodiversité, sur un certain nombre d'éléments, les mêmes conclusions. C'était des copier-coller de Rio 92. On en discutait encore, on les recollait dans les années 2000. Ça, c'est pas normal. Entre-temps, nous aurions dû progresser. Nous avons signé pratiquement à 178 pays. On a signé le développement durable. Le développement durable, c'est quoi? C'est le social, l'économique et l'environnemental. C'est un trépied. En Afrique, l'équilibre, c'est trois pieds. La gamelle, hein, quand on fait cuire une gamelle d'aliments, c'est sur trois pieds, on met le bois entre les trois pieds. Si un pied est un peu plus fragile, qu'est-ce qui se passe? La gamelle tombe. Donc, ce qu'il faut, c'est un équilibre. Et pour moi, il ne faut pas un ministère de l'Environnement. Il faut un vice-premier ministre de l'Environnement, un arbitre qui arbitre le social, l'économique et l'environnemental. C'est-à-dire qu'il soit capable d'influencer tous les ministères. Et c'est ça peut-être l'échec de Hulot, hein, que j'ai beaucoup apprécié dans ma vie et dans les émissions que j'ai fait avec lui. C'est que le trépied environnement, sur les trépieds, l'environnemental est souvent oublié ou considéré comme secondaire. Il doit être égal au reste.
Alors justement, quand dans La Terre et nous, c'est le sous-titre est « Regard et perspective d'un écologue ». Qu'est-ce que vous conseillez, si vous conseillez des choses? Qu'est-ce que vous annoncez dans ce livre-là?
Eh bien, je décline un certain nombre de propositions concrètes et je les soumets au public. Quand je ferai l'intervention tout à l'heure, je poserai un certain nombre de questions pour aider justement à me donner des infos sur comment le public, comment l'individu, le citoyen, quelle est sa réaction. Je suis un adepte de l'approche participative. Donc ça veut dire, quand on fait une approche participative, on n'impose pas un discours, on écoute les gens, et une fois qu'on les a écoutés, on leur explique. Et à ce moment-là, on voit. Un exemple dans mes projets, pour l'éducation, j'avais un personnage important, puisqu'il était député et très important, eh bien, il posait la question, est-ce que vous voulez des écoles? Que répondent les populations à Madagascar? Elles vous disent, oui, bien sûr, on a besoin d'écoles. Vous voulez des routes? Oui, on veut des écoles. Vous voulez des postes santé? Oui, on veut des... Non, c'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Qu'avez-vous besoin? Quelles sont vos priorités? Et ensuite, je les analyse et je vois ce que je peux faire pour vous. Vous voyez, c'est cette démarche, et on est dans cette démarche. Je disais tout à l'heure, quelqu'un de l'ONF ou de l'agriculture ou d'importe, vient avec ses méthodes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne discute pas, il impose ses méthodes, il dit « voilà la vérité ». Or, il devrait dire « quels sont vos problèmes ?» Comment moi, en tant que scientifique ou que technicien ou que agronome, comment je peux faire? Je vous propose telle et telle solution. À vous de me dire laquelle vous préférez en vous donnant les avantages et inconvénients. Le problème, c'est de percevoir les gens avant d'imposer quelque chose. Ça se négocie. Et ça, ça manque.
Ouais, une consultation, effectivement, de la population et serait finalement la solution. Mais à l'échelle mondiale, comment on fait?
Eh bien, à l'échelle mondiale, il faut se retrouver. Il va falloir un véritable... Vous savez qu'il y a un programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, hein, le programme qui a son siège au Kenya, hein, à Nairobi. Bon, cette institution internationale est normalement chargée de gérer l'environnement. C'est l'institution la plus pauvre, la moins opérationnelle qui existe. Elle a organisé Rio, c'est vrai, mais si vous voulez, elle n'a pas de moyens. Il faut un équivalent de l'organisation de l'OMC, c'est-à-dire avec des pouvoirs puissants, des moyens de donner ou de ne pas donner, d'orienter les stratégies. Et c'est à ce niveau-là, vous voyez, l'environnement n'est pas un niveau d'arbitrage suffisant au niveau des nations et au niveau de la Terre.
Alors, vous allez intervenir là d'ici quelques minutes dans l'espace conférence sur ce salon Tatou Juste. Quel est aussi le programme depuis la parution de ce livre La Terre et nous? Est-ce que vous faites de nombreuses conférences? Qu'est-ce que vous proposez finalement autour de ce livre-là?
Alors, autour de ce livre, je propose bien sûr et j'espère pouvoir atteindre tous les médias de manière très objective et très large. Hein. Je ne veux pas faire de politique au sens noble du terme. Je veux simplement apporter des données sur l'environnement aux politiques et, quels qu'ils soient, leur donner les moyens d'agir et à eux de décider. Mais les moyens d'agir, mais avec la condition de mettre des institutions nationales et internationales au plus haut niveau. C'est, à mon avis, la conclusion la plus optimiste et la plus opérationnel possible.
Eh bien, écoutez, Roland Albignac, merci d'être venu au micro de Radio Ondaine et de Radio Audio. On va vous libérer pour votre conférence à 14h.
Eh bien, merci beaucoup et puis à bientôt, j'espère.
À bientôt.
Je reviendrai à Saint-Étienne fin janvier, dans le cadre universitaire, faire une conférence grand public.
Le rendez-vous est donné.
Ça sera avec grand plaisir.